Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
Un mort, un disparu, cinq blessés, c'est le bilan provisoire des intempéries dans le sud-ouest où Météo France maintient la vigilance orange aux vents violents ou aux inondations. 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Un incendie ce matin dans une raffinerie Total près du Havre. Il n'y a pas de blessés et pas de risque toxique non plus selon les autorités. Situation inchangée ce week-end sur le front des grèves. La SNCF espère pouvoir assurer au moins 50% du trafic pour les départs de Noël dans une semaine. Le président de la SNCF appelle les cheminots grévistes à faire une pause pour les fêtes. L'âge pivot de 64 ans est négociable, répète le gouvernement. Gêné aux entournures par l'affaire Delevoye, son monsieur retraite, fragilisé pour n'avoir pas déclaré toutes ses activités. Dans ce journal également, journal raccourci pour cause de grève à Radio France, la main tendue du nouveau président algérien aux manifestants. La COP25 qui joue les prolongations à Madrid, mais sans grand espoir de trouver un consensus. Et puis un spectacle du Centre National des Arts du Cirque, ce sera le concert et culture de Stéphane Capron pour ce week-end.
France Inter.
La trêve ou la grève à Noël, au dixième jour du conflit sur la réforme des retraites, le Premier ministre a demandé à la SNCF un plan de transport pour la période des fêtes en précisant les trains qui seront en circulation. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a de son côté appelé les cheminots à faire une pause, le temps de Noël. C'est au gouvernement qu'il faut le demander, répondent les syndicats. Il reste 9 jours pour négocier et trouver un compromis raisonnable, explique notamment la CFDT cheminots. En attendant, les usagers ont bien compris qu'il valait mieux préparer un plan B, Julie Pietri.
La directrice générale de Voyages SNCF espère assurer au moins 50%, au moins la moitié des voyages. Alors puisque c'est toujours l'inconnu, puisqu'il est impossible de savoir pour l'instant quels trains seront maintenus et quels trains seront supprimés le week-end prochain, les usagers attendent et imaginent des alternatives avec plus ou moins de patience.
C'est prévu sur Avignon. Si les grèves se poursuivent, le 23, je pense, descendre en voiture. Et remonter du coup 2 jours après en voiture, donc ça fait beaucoup de voitures pour ces fêtes, mais bon, j'ai pas bien le choix, ça m'agace pas trop. Alors peut-être que le jour J, ça va m'agacer, mais en tout cas pas avant.
Sans grève, je prends le train. Si pas de train, je reste à Paris. Je renonce aux fêtes en famille et je les ferai à Pâques. Puis j'ai des amis, on improvisera.
C'est écœurant. Il y a plein de familles qui sont touchées, c'est scandaleux, quoi. On verra bien.
Les gens ne savent pas. J'avais des amis qui devaient partir dans le midi pour Montpellier par le train. Ils ne savent pas s'ils vont y aller, retrouver des enfants, tout ça. Donc tout est un petit peu en l'air, en stand-by. C'est un peu fatigant quand même, au bout d'un moment. Puis pour le retour, ça peut être compliqué.
Une nouveauté quand même, le calendrier. La SNCF s'engage à donner mardi une liste des trains partants et supprimés le week-end prochain. Et pour ceux qui partent un petit peu plus tard, du 23 au 26 décembre, les prévisions de trafic doivent être communiquées jeudi.
Et ce week-end, la situation reste inchangée. Un TGV sur 4 en moyenne, 4 TER sur 10. En région parisienne, plusieurs lignes de métro fermées et des lignes de bus en pointillés. La semaine qui vient sera décisive pour le mouvement. C'est une réforme historique, disait hier le président Macron. Une erreur historique, lui répond le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour mardi, auquel se sont joints les syndicats réformistes comme la CFDT, qui sont invités à Matignon dès que possible pour discuter. Même l'âge pivot à 64 ans est négociable, a expliqué ce matin la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Savoir également, c'est une autre question, si le monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, sera toujours en situation de discuter, fragilisé pour ne pas avoir tout dit de ses fonctions au sein de différentes fondations ou instituts. Il assure avoir pensé à démissionner, mais lui qui a travaillé sur le dossier depuis 18 mois est maintenant devenu le maillon faible du gouvernement. Peut-il tenir, Karine Bécard?
Eh bien, c'est vrai que la situation est en train de devenir extrêmement compliquée pour Jean-Paul Delevoye. Plus les jours avancent et plus la liste des manquements, des omissions de la part du haut-commissaire aux retraites s'allonge. Hier, c'était un poste certes bénévole d'administrateur à la Fondation SNCF que l'on découvrait, et aujourd'hui, nouvelle révélation, le journal Le Monde a trouvé la trace d'autres mandats encore, notamment celui de président de l'Observatoire régional de la commande publique dans sa région, à savoir celle des Hauts-de-France. Alors soyons précis, toutes ces activités n'ont pas forcément besoin d'être déclarées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En revanche, elles doivent l'être absolument si elles sont susceptibles éventuellement de faire naître un conflit d'intérêts, ce qui potentiellement pourrait être le cas, par exemple, de l'Observatoire des Hauts-de-France. Donc Jean-Paul Delevoye aurait dû le faire savoir. Bref, il apparaît de plus en plus de zones d'ombre. L'entourage du haut-commissaire jure d'être en contact désormais avec la haute autorité pour éclaircir au plus vite tous les points qui doivent l'être. Maintenant, peut-il rester au gouvernement? Depuis presque une semaine, on observe toute la majorité qui fait bloc derrière lui. Pourquoi? Parce que, d'abord, le haut-commissaire aux retraites est le seul à maîtriser si parfaitement la technicité du sujet, et ensuite parce que l'Élysée n'a probablement personne pour l'instant pour le remplacer.
Tout dépendra des suites qui seront données à ces révélations. Le parquet de Paris a demandé des précisions à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Un dossier Delvoye à consulter également sur franceinter.fr. Et puis, illustration de l'ambiance un peu tendue du moment, la mésaventure survenue hier soir à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, venue assister à un match du Red Star à Saint-Ouen. Elle a dû quitter le stade après avoir été prise à partie par des supporters opposés à la réforme des retraites. Personne n'a le monopole du social et surtout pas ces quelques supporters qui prennent le foot en otage, a réagi la ministre tout à l'heure sur France Info. Le président du Red Star, Patrice Haddad, assure qu'il prendra les décisions fermes qui s'imposent vis-à-vis des fauteurs de troubles. En Algérie, rien de changé après l'élection d'Abdelmadjid Tebboune au premier tour. C'est une marée humaine qui a envahi les rues d'Alger, non pas pour le féliciter, mais pour conspuer celui qui fut un temps premier ministre du président déchu Bouteflika. Dans ses premières déclarations, le nouveau président Tebboune a tendu la main aux contestataires et appelé au dialogue, mais peut-il être entendu? Mathilde Dohimi à Alger.
C'est un président qui se sait élu mais pas reconnu par une large part de sa population qui s'avance pour sa première déclaration. Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a fait toute sa carrière au sein de l'administration algérienne. Wali, préfet, ministre puis premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika pendant 3 mois. Un profil de fidèle du système actuel, très caricaturé par les dessinateurs dont certains sont en prison. Dans son discours, il tente donc de donner des gages de changement, appelle au dialogue, promet d'amender la constitution par référendum populaire, de lutter contre la corruption, de nommer des jeunes et des femmes au gouvernement. La rue a répondu hier à cette élection en continuant déterminée à manifester pour un changement radical de système et pour, disent-ils, de véritables élections libres et démocratiques. Deux Algéries qui semblent à l'heure actuelle irréconciliables, plus une troisième plus attentiste et qui pense que rien ne changera dans un avenir proche. Alger, Arthur Gerbeau, Mathilde Dehémy, France Inter.
À l'étranger également, la COP25 qui joue les prolongations à Madrid. La conférence de l'ONU sur le climat qui devait se conclure dans la soirée d'hier n'a toujours pas fait connaître ses conclusions, dont les associations d'ailleurs n'attendent plus grand-chose. Certaines craignent même une régression. Aucun consensus ne s'est dégagé, en particulier sur les nouvelles ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Les négociations sur ce point seront renvoyées à la COP26 l'année prochaine en Écosse. Mathieu de Taillac à Madrid.
Il y a 3 grands sujets sur lesquels les pays peinent à trouver un consensus: les ambitions, c'est-à-dire les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'article 6 du traité de Paris qui doit organiser un marché mondial du carbone, et les pertes et dommages, autrement dit l'aide aux territoires frappés par des catastrophes naturelles. Sur chaque chapitre, il y a les pays volontaristes et ceux qui traînent les pieds. Jennifer Morgan est la directrice générale de Greenpeace.
Le texte devrait déclarer l'urgence climatique et appeler à relever nos ambitions. Mais pendant que nous parlons, il y a toujours des pays comme l'Australie, le Brésil et l'Arabie Saoudite qui viennent ici avec l'intention de détruire l'accord de Paris. L'Union européenne a adopté un nouveau plan. Ses dirigeants devraient venir ici avec une nouvelle énergie et travailler avec les pays les plus vulnérables du monde pour parvenir à un accord qui leur permette de rentrer chez eux et de parler avec leurs enfants en gardant la tête haute.
En session plénière, les différents États ont encore affirmé leurs différences. Ce matin, tout ce que la COP résoudra ce week-end aplanirait le terrain de la prochaine conférence sur le climat, celle qui aura lieu l'an prochain à Glasgow. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
À ce jour, 80 pays, notamment en Europe, se sont engagés à relever leurs ambitions, mais ils représentent 10% seulement des émissions mondiales.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Un incendie ce matin dans une raffinerie Total à Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Un incendie qui n'est pas complètement maîtrisé, mais les analyses des fumées n'ont pas fait apparaître d'éléments de toxicité. Un incident qui survient le jour même de la réouverture à Rouen de l'usine Lubrizol. Réouverture partielle, moins de 3 mois après le gigantesque incendie qui avait ravagé ce site Céveso, où étaient fabriqués ou sont fabriqués des additifs pour huile de moteur. Mauvaise idée pour la métropole de Rouen et pour les associations de défense de l'environnement qui dénoncent justement les analyses insuffisantes, selon elle, réalisées par Lubrizol, inquiétude injustifiée pour le préfet Pierre-André Durand. Sur le front des intempéries, une douzaine de départements du Sud-Ouest toujours en alerte pour vents violents ou inondations. Un automobiliste de 70 ans est mort hier sur une route des Pyrénées-Atlantiques où sa voiture a percuté un arbre tombé sur la voie. 5 autres personnes ont été blessées par des chutes d'arbres. Ce matin, un autre septuagénaire est porté disparu dans le Lot-et-Garonne, emporté par un cours d'eau. Ce midi, 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité et beaucoup de communes sont toujours les pieds dans l'eau. Et puis le vent souffle également ce matin dans les Alpes. Le slalom de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du Monde masculine, a dû être annulé. La météo dans un instant. Ce n'est pas du sport officiellement, mais c'est une épreuve physique hors norme qui se disputera à Creil tout à l'heure, une traversée de l'Oise à la nage, organisée par les sauveteurs du département, comme chaque année depuis 46 ans. Il n'y a qu'une centaine de mètres à parcourir, mais l'eau est froide et les nageurs n'ont pas de combinaison. L'objectif, c'est de montrer que les sauvetages sont possibles, même dans des conditions très difficiles, Béatrice Duguay.
À cette période de l'année, la météo forcément vient pimenter l'épreuve, reconnaît Alexis Derache de l'association des sauveteurs de l'Oise.
On a eu de la neige, on a eu de la grêle, on a eu du beau temps aussi. Après, l'idée c'est de traverser en simple apparat d'un maillot de bain et d'essayer de faire un temps record parce que tout cela est chronométré.
Le record de cette traversée est à 47 secondes, mais Olivier Cracus n'a pas d'espoir de le battre. À sa 12e participation, ce graphiste et sauveteur bénévole pense surtout à terminer l'épreuve.
Les 50 premiers mètres, en général, le corps, le temps qu'il se refroidisse un petit peu, ça se passe bien. Et on va dire que les 50 derniers mètres, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Les mouvements de bras vont être un peu plus lents. Le rythme cardiaque va accélérer un petit peu plus. Et puis après, c'est une course qu'on finit au mental, on pose le cerveau et puis on réfléchit pas jusqu'au bout.
Parce que la température de l'eau ne dépasse pas 7 degrés. L'épreuve se déroule à 17h de nuit, donc sinon ce serait trop simple. Mais elle n'est pas que défi physique pour Alexis Derache.
Le premier objectif, voilà, c'est vraiment de démontrer que même un simple citoyen peut à tout moment sauter dans une rivière pour sauver une personne qui serait malencontreusement tombée dans l'Oise.
Tout le monde peut donc devenir sauveteur, c'est le message. Tous les participants de cette traversée sont quand même des nageurs très aguerris.
Et pour autant, ils sont bien harnachés et placés sous la surveillance d'un médecin. Allez, on n'est pas là pour sucer des glaces. Rien de trivial dans cette formule qui fait le titre d'un spectacle de cirque. Spectacle de fin d'études de la 31e promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne. 16 étudiants issus de 9 pays qui ont voulu cette année réhabiliter notamment des disciplines en perte de vitesse comme le jonglage ou l'art du clown. C'est le conseil week-end de Stéphane Capron.
C'est le premier numéro qui a donné son nom au spectacle. Un jeune acrobate se contorsionne au sol, les chaussures recouvertes d'immenses blocs de glace qu'il fait fondre sur sa langue. L'humour est au centre du spectacle qui est un hommage au cirque traditionnel avec le retour sur la piste de l'art du clown et les pitreries de Carlo Cerato qui est aussi un jongleur hors pair.
Au tout début, quand j'ai commencé, un peu après 10 ans, j'ai commencé à faire le clown, même avant de faire vraiment du jonglage. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup le côté comique qu'on peut amener en scène. Je trouve qu'il soit une chose très agréable à faire et à donner au public.
Un léopard en peluche saute au travers d'un cerceau. Un dompteur fait claquer son lasso pour mettre de l'ordre sur la piste. Le rire est là, mais aussi la performance physique avec ses numéros acrobatiques dans les airs, dont celui de Darian à la corde volante.
Je pense que c'est beaucoup le toucher qui m'a plu, le toucher de la corde. Toutes les positions, j'avais rarement mal. Enfin, le corps disait aussi que ça allait. C'est beaucoup le corps qui disait « Ah oui, c'est agréable ». Parce que plein de monde me demandait « Mais t'as pas mal ?» Et je disais « Non, c'est très bien ». Et oui, elle est juste hyper attirante quand je la regarde, je la trouve très belle.
Le spectacle a encore besoin d'être resserré et musclé, mais l'esprit espiègle et poétique irrigue déjà la piste.
Voilà, on n'est pas là pour sucer des glaces. Ce soir et demain au Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne. Ensuite, du 22 janvier au 16 février à la Villette à Paris. Le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Certains cours d'eau du quart sud-ouest restent en vigilance orange crue. L'Isère et les Deux-Savoies sont également en vigilance orange pour risque d'avalanche. Et la Haute-Corse, pour le vent encore supérieur à 120 km à l'heure en début d'après-midi. Malgré des températures partout supérieures au normal, le ressenti sera beaucoup plus frais en raison du vent sensible vers 70 km à l'heure dans les terres, 90 sur les régions littorales, avec une zone de pluie traversant le pays du Poitou-Charentes vers la Franche-Comté et du nord de l'Aquitaine aux Alpes du Nord, apportant pas mal de neige nuages à moyenne altitude sur les massifs de l'Est, des précipitations qui vont d'ailleurs se renforcer par l'océan en soirée. Cet après-midi, le nord de la Loire va conserver un ciel incertain avec averses et dans la partie sud, temps sec près des Pyrénées et souvent bien dégagé autour de la Méditerranée. Demain, un temps pluvieux va se maintenir entre le nord de l'Aquitaine et le quart nord-est. De part et d'autre, le soleil va se montrer plus franchement au sud qu'au nord de la Loire où le vent sera turbulent, ainsi qu'en matinée sur la Corse.